on appelle. Le cœur est en fête. On s'apprête à convoquer l'ermite. On le convoque. On lui demande de convoquer le poète. On échappera à la vague. Et à la deuxième, à la troisième, au burn-out, à l'impuissance, au désespoir. On a déjà échappé au marécage, de la précarité des humbles, du bannissement des bohèmes. Du moins, on n'en est pas mort. La vague de la peste paraît nous éviter aussi. On est prudent, à peu près. Le poète est venu, il est en moi. Il se met à créer des chemins et des voyages entre mes quatre murs. Je me serine des réjouissances. Je vais pouvoir écrire, laisser venir à moi l'immobilité vibratoire sans vergogne, sans me dire « il faut démarcher, dégoter des contrats, assurer ma présence sur les réseaux sociaux, répondre à la demande ». Dehors, le soleil baigne le jardin d'enthousiasme. Je m'installe sur la terrasse. Posé sur une souche à côté de moi, un café brûlant. La paix. Juste le paysage. Et la contemplation. Les premiers chants de passereaux. Le passage de l'écureuil. Et les graminées au loin là, là, dans le vallon. Que j'écoute pousser dans mon dos, au-delà de l'hirsute de la haie, la route a disparu. Ça tombe bien, je n'ai plus à l'emprunter, je n'ai plus à me dire « il faut sortir ». Les petits pieds de mes yeux suffiront pour la promenade. Le poète s'est installé avec la plus grande des douceurs. Il s'est dit « je vais prendre le temps avec l'écrivain pour danser dans le verbe. Je vais prendre le temps des calembours avec le fils. Je vais prendre le temps avec la compagne. La compagne que le travail a défaite des années durant. Que le travail a éteinte. Que le travail a médusé dans sa pensée, dans ses élans, dans son accueil. Que le travail a secoué dans des blessures anciennes, que le travail a bouté depuis des mois dans la maison close de la maladie. Je vais prendre le temps avec elle aussi, a murmuré le poète. Mais l'école a pénétré la maison, la terrasse, le regard sur le jardin, les balises de l'ado, l'école comme une énorme locomotive à vapeur. Au charbon, allez, au charbon! Et le père a remisé le poète. Et le père a pris d'assaut les chevaux fous de la Micheline. Il s'est battu pour un cap que le fils ne désirait pas. Et le fils et le père, tout recouverts de suie, se sont tendus comme le fer, ont fabriqué des regards noirs, ont tracé des plaies de sabre, givré l'amour, celui du fils, celui de la mère. La glaciation, c'est sûr, c'est la crispation de la nature, de chaque élément de la nature. Et rien ne peut y faire, sauf l'attente du dégel ou d'un autre printemps. L'impasse. Est-ce le poète, le père, l'amant? Il crie. Il ne voit plus d'issue, voit tout s'effilocher inéluctablement. Il crie, hurle, je sais plus, je vois plus, je veux plus, il n'y a plus rien. Il veut partir, là où la souffrance, avec la matière qui la porte, n'existe plus. Chez moi, la mort ne sera pas venue, mais d'autres sont partis, des proches, des sensibles, des poètes. Certains l'auront voulu, d'autres pas. Je suis resté, j'en souffre, de voir ces amis partir. Je pense à eux, à leurs voisins de cœur qui n'ont plus auprès d'eux la chaleur du corps familier de sa voix. Je me dis que leur mort n'est que partielle, qu'une partie de l'ami habite en moi. J'écris cela, je l'envoie à Karl, et je pense et repense aux âmes mortes qui ne me serviront pas comme celles de Gogol, mais qui me feront plus poète encore. Olindo, Rio, Serge, Jean-Claude et tous les autres. L'été prépare une mélancolie terrible. Il et elle s'emparent des tissus, fabriquent de grosses boules sombres sous le thorax, au fond de la gorge, pleuvent des larmes, ça blouble des bouillons, c'est crescendo, le mutisme de la campagne torture, plus encore, plus puissamment que les langues de bois des autorités. On sent que des calculs emprisonnent. Et puis, adieu va. Il n'y avait pas qu'une Micheline unique sur les rails. Des trains fous, fous, complètement fous. Et soit, soit, on se dit que seul le poème nous sauvera, ne nous laissera pas seuls. Mais qui l'invoque, ce poème, si ce n'est le poète rare? Les violences psychiques s'accumulent, dit-on à la radio. Partout, sans distinction de classe ni d'église. Tout autour, le culte du moi, du bien-être du moi, du lien coupé au ciseau comme un ruban pour célébrer la liberté déifiée. L'autre devient un objet, un consommé. On n'a pas d'empathie pour un objet, ni de compassion. Et sans empathie ni compassion, on ne peut que se battre ou se débattre quand l'objet se rebiffe. Moi, je rêve d'égaux qui se font humbles, n'achètent ni ne vendent plus rien ni personne, sans s'en être laissé traverser du souffle, de la poésie. Mais je m'égare. Je ne perçois plus autour de moi que cheminement unilatéraux. On m'y invite aussi. Tu dois sauver ta peau. Il n'y a pas d'autre considération. L'impuissance s'ajoute aux impuissances et l'amertume à l'amertume. Mais des amis m'ont aidé, m'ont dédié 1000 mots de démêlage. Milady m'a dit : le burn-out est avant tout égarement, lien direct avec le non-sens. Tout est perdu sur la peau. La destruction se fait multistrate et donc multidirectionnelle. C'est la pathologie qui parle, pas sa victime. Neuropsychologiquement, le burn-out sidère, empêche de revitaliser les zones du cerveau et du cœur. Partout, toutes et tous répètent. Prenez soin de vous. Prenez soin. C'est comme des petits moucherons sonores dans l'air mou d'une fin d'été. Prenez soin de vous. Beaucoup de couples n'auront pas reçu ces soins. Ils auront été jetés. On aura beau dire solidarité, il faut se tenir les coudes, protéger les autres de la maladie, de la paupérisation, du dédain, on ira quand même vers d'autres intuitions, celles que l'ego suit dans le court terme, celles que suivent les femmes et les hommes affaiblis. Un peu plus loin, je me dis, il n'y a jamais foison de Jean Moulin, ni de Jean Jaurès. Les élections américaines ont frôlé la catastrophe, ont frôlé la ruine mondiale de la pensée éclairée, de l'attention à l'autre, de l'entraide, de la culture non marchande. L'espoir persiste, il y a du moins pire, il y a des résistants, Parfois, les résistants l'emportent et l'air redevient respirable. Mon fils raconte, le chat Paudit, notre chat blanc. On dirait que mon fils est entré dans la peau du chat. Raconte encore, le chat Paudit qui entre et sort et entre, et mange dedans, mange dehors, peint un tableau en dormant sur le canapé rouge, mange à chaque sortie quelques hippomées du jardin, crée autant de surprises que de rites, lèche une larme, se frotte à nos mains, à nos voix, tisse des liens devant le jour dans la maison et la nuit autour de la maison. Et entre le fils et le père, le chat Paudit a retissé des liens doux. Novembre 2020. Les matins ont fraîchi. Le poète me chuchote. Que l'air frais se rappelle à nous. Traverse nos narines, nos plèvres, nos cerveaux de toutes sortes. Notre corps tout entier nous rappelle qu'il peut encore échapper, ci et là, aux nuisances humaines, pour nous faire du bien. Juste nous faire du bien. Voilà. Demain. Demain est un autre jour qui nous rapproche du printemps. D'un autre.